Radio Galilée vous propose à l'instant le Carême 2023. Un entretien dirigé par l'abbé Denis Veilleux avec le père Philippe Capel-Dumont, philosophe, prêtre et président émérite de l'Académie catholique de France, qui nous livre ses réflexions sur le thème « L'heure vient ».
Père Philippe Capel-Dumont, pourquoi le fait de changer les pierres en pain est une tentation lorsque la faim se présente?
Oui, alors, vous évoquez là, ici, la toute première tentation, hein, qu'on trouve dans les synoptiques, dans Matthieu notamment, hein, chapitre 4, récit éminemment célèbre, où après son baptême, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté, hein, dit-on, par le démon. Alors c'est le tentateur qui s'approche de lui, c'est pas Dieu qui s'approche du tentateur, c'est le tentateur qui s'approche de lui, et il lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Cette première tentation, c'est au fond la tentation de posséder, c'est-à-dire de faire en sorte que le pain, qui est le symbole ici de la nourriture, mais c'est aussi des biens que nous possédons, soit la réponse à tout. Donc nous avons cette tendance à considérer qu'en ayant plus, nous serons plus. Et donc cela vaut même d'ailleurs si nous ne sommes pas très riches. Nous considérons que ce que nous avons sous la main, eh bien nous allons le posséder pour être mieux. Je prends des exemples extrêmement simples. Je peux par exemple être étudiant et penser que mon métier ce sera, j'aurai tout. Quand j'aurai mon diplôme, ça y est, j'aurai tout gagné. Voilà, c'est très bien, personne ne mettra en cause le projet d'aller vers un diplôme, personne ne... Mais attention, danger, de considérer que le tout sera atteint. Je pense posséder mon diplôme, donc j'aurai tout. Bon, aujourd'hui, on voit bien que c'est quand même difficile à constituer. Ça peut être aussi dans la vie adulte, je peux très bien considérer qu'en ayant tel ou tel bien, j'aurai réglé. Ça ne marche jamais. Autrement dit, Jésus met le doigt sur une tentation humaine qui est considérée qu'en possédant, j'aurai le tout de l'existence. Le tout va se refermer. Mais le tout ne se dit pas dans ce que je vais posséder. Donc ça, c'est la première des grandes tentations, en quelque sorte, c'est la possession qui oublie que l'objet de la possession ne me satisfera jamais entièrement. Voilà. Alors c'est très bien de posséder, personne ne critiquera le petit livret d'épargne, personne ne critiquera la possession de la voiture ou de la maison, ce n'est pas le sujet. Ce qui est ici indiqué, c'est que la possession de ces objets ne peut pas être considéré comme un tout. Nous connaissons des personnes pour lesquelles la vie ne se résume qu'à la possession. Nous le savons. Et donc c'est un défilé continuel, c'est une espèce de course sans fin jusqu'au jour où ça s'arrête. Et c'est l'expérience de la Bible, quand on meurt, on n'emmène pas grand-chose dans la tombe. Alors on peut léguer à ses enfants, mais la question que pose Jésus, c'est attention, danger dans le rapport à la possession. Alors voilà, si vous voulez, ce que l'on peut dire de ces tentations. Il y en a. Au fond, je viens de dire la tentation de la possession, bien sûr, mais il en est d'autres qu'il faudrait développer, que Jésus développe aussi un peu plus bas dans les versets suivants. Hein. Au fond, Jésus dit lui-même, l'homme ne vit pas seulement de pain. C'est très étrange, puisque dans l'Eucharistie, il va nous donner son pain. Mais justement, c'est un pain qui ouvre à l'ouverture à l'autre. C'est le don du pain, c'est le don qui est. C'est pas la matérialité, c'est le don que Jésus fait de lui-même dans le pain eucharistique. Donc, c'est une sorte de tentation presque apparemment anodine, qui passe comme ça, que l'on ne se rend pas compte. Et c'est une sorte de sentiment presque, encore une fois, qui nous envahit. Qu'en donnant droit de cité à nos désirs immédiats, sans jamais relever la tête, eh bien, nous aurons de quoi un jour d'être satisfaits. Bon, voilà, Jésus dénonce cette tentation horrible qui peut faire des ravages. Hein. Je connais des familles qui n'ont passé que leur temps, les parents, à accumuler de l'argent, mais qui ont complètement manqué la transmission à leurs enfants d'éléments de vie. Eh bien, moi, j'ai vu des enfants de familles très, très riches se suicider. Voilà le drame. L'homme ne vit pas seulement le pain. Donc à quoi bon accumuler pendant que le père, notamment, passait son temps à accumuler? Eh bien, les enfants se sont suicidés. Qu'est-ce que c'est que ce... Voilà le résultat. Il y a une sorte de d'immanence de la vérité qui, à un moment donné, fait que la tentation révèle son caractère criminel. Voilà donc pour la première des tentations que Jésus connaît.
Permettez-moi, Frère Philippe, le texte dit que lorsqu'il eut faim, on sait qu'il a jeûné 40 jours et 40 nuits, lorsqu'il eut faim, le tentateur s'approche. Et la première des tentations, c'est de changer les pierres en pain. J'aimerais ça que vous nous aidiez à comprendre, est-ce que c'est une tentation quand on a faim?
Oui, alors, ça rejoint l'un point que nous avions évoqué, c'est-à-dire que le tentateur, nous avons toujours faim de quelque chose. Et le tentateur se glisse dans les fins qui sont les... Nous avons toujours faim. Quand nous sommes êtres humains, nous avons faim de quelque chose. De quoi avons-nous faim? Nous avons faim d'amitié, d'affection, de tendresse, de projet. Nous avons faim d'un avenir. Nous avons faim de goûter la vie. Nous avons faim aussi d'édifier quelque chose qui puisse servir à l'humanité. Nous avons faim de tout
ça. Donc c'est positif.
Donc c'est très positif. Mais dans cette faim, précisément, se creuse quelque chose que nous n'avons pas encore. Et donc le tentateur se glisse dans ce que nous n'avons pas encore pour laisser entendre qu'il est la réponse à ce que nous n'avons pas encore. Et c'est là que, précisément, c'est le temps de la faim, c'est le temps de l'inaccompli, de ce qui n'est pas encore. Et donc, pendant que nous sommes dans ce temps, eh bien, le tentateur donne à croire, comme il le fait dès la Genèse, qu'il est la réponse à l'attente ainsi dessinée par cette faim creusée. Hein. Donc, si nous avons faim de rien, si nous n'avons besoin de rien, si tout va bien, d'une certaine manière, le tentateur n'a aucun avantage à travailler avec celui. Mais en revanche, là où il y a le temps de l'inaccompli, le Satan laisse entendre qu'il est la réponse de cette attente et de cet inaccompli. Donc, la transformation des pierres en pain, c'est précisément de laisser croire que, en possédant, magiquement, j'aurais résolu. La question de la faim, n'est-ce pas? Et donc, autrement dit, tout sera bouclé. Mais en réalité, la faim demeure, et n'est pas seulement la faim du pain matériel, mais elle est la faim de la vie. Pour dire les choses jusqu'au bout, grâce à votre question, est-ce que dans l'éternité, nous n'aurons plus faim? Pas sûr. Nous aurons toujours faim. Alors c'est une fin qui sera évidemment divinisée, mais c'est la fin de la communion en Dieu. C'est-à-dire que nous serons toujours dans une situation de désirer. Je pense, comme saint Thomas d'Aquin le disait, que dans l'éternité, l'éternité c'est l'accomplissement des temps, c'est pas la fin des temps. C'est la fin des temps, c'est-à-dire c'est l'accomplissement. Les temps sont accomplis, bien sûr, les temps sont accomplis, mais en même temps, à aucun moment donné, Thomas d'Aquin le dit à plusieurs reprises dans sa somme de théologie, ça m'a toujours frappé, que l'éternité assume le temps. Hein, autrement dit, la fin qui nous habite, c'est notre être, hein, c'est l'être humain. Et donc, pendant que nous sommes en situation de faim, eh bien, le tentateur se glisse. Donc la transformation, pour me répéter, la transformation des pierres en pain, eh bien, c'est l'illusion que seul le pain suffira en quelque sorte. Il suffit de posséder et nous n'aurons plus besoin, en quelque sorte, d'avoir faim. Eh bien, si justement, nous avons faim, et de même que la mère a faim de voir son enfant ou son époux, de même que l'enfant a faim de voir ses parents, il a faim de grandir, eh bien, nous sommes dans le principe vital, hein, ce que Bergson appelait l'élan vital. Au fond, la faim peut être traduite comme ça, hein, c'est l'élan vital. L'élan vital de Bergson et d'autres. Et le principe vital, c'est le principe de la faim. Malheur à celui qui n'a pas faim. Hein. Mais pas seulement de pain, mais aussi de ce qui fait justement le mystère. Au fond, la faim la plus noble, c'est la faim de Dieu. Ephaïm, hein, la fin de Dieu, c'est ouvrir l'éternité, si je puis dire, au temps, sans, en jouant sur le paradoxe. Et donc, le Satan qui veut briser, qui est le destructeur, ne veut pas que cette trajectoire se commette. Il y a des forces du mal qui veulent interrompre cette trajectoire de la fin. Et donc, si on transforme les pierres en... Ben voilà, n'auront plus faim. Voilà, en quelque sorte. Donc voilà ce que je crois qu'il faut retenir de cette métaphore, de la transformation illusoire et dramatique des pierres en pain.
Vous venez d'entendre le Carême 2023, un entretien dirigé par l'abbé Denis Veilleux avec le père Philippe Capel-Dumont, philosophe et prêtre.